Ah, bonjour à chacun. C'est bon d'être de retour. Bien, vous autres, peut-être que vous n'êtes pas de retour, mais moi, je suis de retour. Puis, de pouvoir entendre vos voix en unisson pour louer notre Dieu, notre grand Dieu. Et je ne sais pas si jamais je vais pouvoir me faire à l'idée de la grandeur, de la grâce et de la miséricorde de Dieu envers nous. Et c'est vraiment, vraiment unique et spécial et sans pareil. Alors, ce matin, on continue après une pause de plusieurs semaines. Et je pensais que j'avais beaucoup de temps pour me préparer. Puis j'en ai pris beaucoup de temps, mais on dirait que même hier au soir, je finissais au moins revisé. je remercie le Seigneur de me donner ce privilège de partager avec vous un peu de ce qu'il m'a montré par sa parole. Et je prie qu'il puisse continuer son œuvre dans chacune de vos vies par l'entremise de sa parole, son esprit. Alors, prions ensemble. Bon Père Céleste, on veut te louer et te remercier. Parce que véritablement, tu es unique et sans pareil. Et tu nous as démontré en ton Fils Jésus-Christ, justement, combien est-ce que tu nous aimais, comment est-ce que tu désirais avoir une relation personnelle avec nous. Et merci que tu as eu pitié de nous. Merci que tu nous as tendu la main pour nous secourir, nous purifier, nous pardonner et faire de nous tes enfants pour ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Et on te prie que ce matin, par ta parole, par ton esprit, tu continues à nous enseigner, à nous aider à réaliser qui tu es et ce que tu as fait pour nous. Puis aussi de réaliser notre condition, notre état, et ce que tu nous offres en ton Fils Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions, te remercions. Amen. Alors ce matin, la plupart de ce que je vais partager va être tiré de Genèse 3. Alors, si vous voulez, vous avez une Bible ou sur votre portable, votre cellulaire, parce qu'on va lire quelques versets, ils vont être affichés aussi, mais c'est que c'est dépendant des traductions, ça varie un peu, mais le message est le même. Alors, demain, ça va être le 14e anniversaire d'une catastrophe qui est arrivée au Chili suite à l'effondrement d'une mine. 33 hommes se sont retrouvés coincés dans les décombres, sous terre, à 700 mètres. Ça, c'est presque trois quarts de kilomètre. Ou 2300 pieds, ou presque un demi-mille sous terre. Et après cet effondrement, eh bien, il n'y avait pas grand espoir, parce qu'il n'y avait aucune manière de s'en sortir par le propre moyen. La seule chose qu'ils espéraient, c'est que quelqu'un à la surface puisse prendre conscience de leur état, de leur condition, et qu'ils fassent les efforts quelconques pour les retirer de leur condition. Puis c'est ce qui s'est passé. Mais l'attente a été, du point de vue de ces mineurs, interminable. Parce que ça a pris 69 jours avant qu'ils puissent remonter à surface. Puis c'est encore extraordinaire qu'ils ont tous remonté à surface. Parce qu'ils auraient pu mourir d'être là. Il y a même un film qui a été fait qui s'intitule « Les 33 ». Basé sur cet événement, cet incident malheureux. Dans le film, le sauveteur principal qui dirigeait les opérations de sauvetage a dit à un moment donné dans le film, « 33 hommes sous terre, 300 membres de famille attendent. Nous sommes leur seul espoir. » Dans cette profondeur ténébreuse, ces hommes aspiraient désespérément à une lueur d'espoir. Et quand on regarde le récit de Genèse 3, eh bien, c'est le récit de la désobéissance d'Adam et Ève. Puis je crois qu'il y a un parallèle à faire parce que Adam et Ève, c'est comme, après leur désobéissance, c'est comme s'ils s'étaient retrouvés justement dans un gouffre, sans espoir. Puis eux aussi, c'était dans le fin fond de leur être, aspiraient à une lueur d'espoir. Parce qu'ils réalisaient, à un moment donné, qu'ils ont pris conscience qu'ils ne pourraient pas s'en sortir par eux-mêmes. Mais ce qui est... Oh, j'ai oublié de montrer le... C'est parti avec... C'est le film comme tel, là. Mais malgré ce qu'on voit dans Genèse 3, qui est la chute de l'humanité, on voit à travers ce chapitre quand même qu'il y a une lueur d'espoir. Parce qu'on voit Dieu qui démontre sa miséricorde et sa grâce en intervenant d'une manière unique et sans pareil, pour faire briller une lueur d'espoir pour Adam et Ève, mais ainsi que leurs descendants, nous. Mais avant d'aller plus loin, on fait une petite revision sur ce qu'on a vu la dernière fois, parce qu'on a vu que les pécheurs sont séparés de Dieu, ce qui entraîne, puis il y avait trois choses. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est sur ces trois-là qu'on s'était penché. Ce qui entraîne la mort spirituelle, qui est la séparation d'avec Dieu. Pas juste la mort physique. Ensuite, l'esclavage à Satan. C'est lui qui devient le maître. C'est lui qui nous contrôle par le bout du nez. C'est lui qui nous influence. C'est lui qui cherche à saboter l'œuvre de Dieu, qui veut nous éloigner de Dieu. Et ensuite, ça entraîne la colère de Dieu. Dieu étant saint, eh bien, il n'a aucune affinité avec le péché. Et du fait qu'on est pécheur, bien, il n'y a pas d'affinité avec nous, étant, quand on est dans cet état-là, dans cette condition-là. Quand on regarde l'ensemble des Écritures, elles nous révèlent que nous avons hérité une nature pécheresse qui affecte notre manière de penser, avec une tendance, en général, de tordre la vérité puis de croire aux mensonges. Ça dépasse, en tout cas, l'entendement humain. Comment ça qu'on est plus prêt à croire au mensonge que croire à la vérité? En tout cas. Puis là, à partir de là, on se fait toutes sortes d'idées. Des idées tordues, fausses, sur la personne de Dieu. Et probablement qu'Adam et Ève, ils se sont fait la même idée. C'est-à-dire, je ne sais pas s'ils se sont fait une idée que Dieu les attendait en arrière de la porte, même s'il n'y avait pas de porte, peut-être à ce moment-là, dans le jardin, là. Et puis, on s'imagine que Dieu est en arrière de la porte, au tournant, avec un bat de baseball pour nous en sacrer une bonne. T'sais? Puis, c'est ça qu'on se fait comme image de Dieu. Alors, on dit, wow, je ne m'en vais pas par là parce que je sais ce qui m'attend. Ce qui n'est pas du tout vrai, là, mais en tout cas, c'est l'idée qu'on se fait. Puis, on se fait des idées sur nous-mêmes. On se croit, on se pense pas mal mieux que la plupart des autres, puis que Dieu est impressionné avec nous. On se fait une fausse idée du péché. Pour bien des gens, c'est que ça n'existe pas. Ça fait que pourquoi s'en bordrer? Pourquoi s'en préoccuper? Mais c'est que, du point de vue de Dieu, pour lui, ça existe. Puis aussi, bien, on se fait une fausse idée sur la manière qu'on va être restauré ou pardonner nos péchés. Puis là, bien, on a élaboré toutes sortes de moyens, de stratégies. Puis là, bien, hey, si on peut juste tenir bon jusqu'à la fin, là, Dieu va être impressionné, il va nous accueillir les bras ouverts. Puis on pourrait continuer. C'est que on a beaucoup d'informations, des fois bonnes, mais moins bonnes. Mais quand je préparais ça, je disais, il doit y avoir une autre manière d'écrire info. Info. Parce que bien souvent, ce qu'on pense être de l'info, et plutôt de l'info, vraiment faux, à côté de la traque, complètement dans le champ. Quand on lit dans Genèse 3, eh bien, on voit que Dieu révèle les conséquences désastreuses de la désobéissance d'Adam et Ève. Ils les avaient créés, c'était un environnement parfait, ils étaient innocents, parfaits, et ils avaient une intimité avec Dieu qui était unique et sans pareil, puis ils pouvaient en jouir. C'était merveilleux. On ne peut même pas m'imaginer, on ne peut pas s'imaginer que ça comprenait, parce que on n'a jamais eu la possibilité de connaître cette réalité-là. Juste Adam et Ève. Nos arrière-arrière-grands-parents. Mais suite à leur désobéissance, cette relation parfaite avec Dieu a été complètement changée. La corruption s'est installée, résultant à une relation brisée, séparée de Dieu, la mort spirituelle à cause de leur péché. Et c'est ce qu'on voit dans Romains 6, 23. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Pas juste la mort physique, mais la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Mais face à cette désastreuse conséquence, la question peut se poser, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Ou est-ce qu'on va être obligé de subir les conséquences et les répercussions du péché de nos premiers parents? Eh bien, Les deux premiers chapitres nous parlent de perfection, puis les 187 premiers prochains chapitres vont nous parler de ce que c'est que va nous décrire davantage notre condition, mais en même temps nous proposer, nous révéler ce que Dieu avait à nous dire, à nous communiquer pour démontrer sa miséricorde et sa grâce. Parce qu'il ne voulait pas nous laisser nos premiers parents et nous dans cet état-là de perdition. Et ce qu'on regarde ce matin, c'est que Dieu fait preuve de miséricorde et de grâce. Il y a trois volets qu'on va regarder à ce sujet. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est ceux-là qu'on va regarder. En offrant la possibilité de se repentir, en promettant un libérateur qui secourra l'humanité, en fournissant une solution divine donnant espoir. Et on va revenir un peu plus en détail sur chacun. Quand on parle de la miséricorde et de la grâce de Dieu, c'est bon de savoir qu'est-ce que c'est de quoi il s'agit au juste, comment est-ce qu'on peut les définir. Eh bien, la miséricorde, c'est que Dieu ne nous châtie pas selon ce que nous méritons. Dieu ne nous châtie pas selon ce que nous méritons. Et la grâce, et il se complémente, Dieu nous accorde ce que nous ne méritons pas. Alors, voilà comment est-ce que Dieu se révèle dans les Écritures. Je suis un Dieu de miséricorde qui ne châtie pas selon ce que vous méritez, et la grâce, Dieu qui nous accorde ce que nous ne méritons pas. Alors, on regarde ça un peu plus en détail. Dieu fait preuve de miséricorde et de grâce en offrant la possibilité de se repentir. Et là, regardons dans Genèse 3, les versets 7 à 9. Ça, c'est après qu'ils ont mangé du fruit défendu. Nous lisons, « Leurs yeux à tous les deux, s'ouvrirent, et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Alors, ils viennent de manger du fruit défendu. Ils viennent d'aller à l'encontre, désobéir à un commandement bien simple, tu ne mangeras pas de ce fruit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le contraire. Ils en ont mangé. En tenant compte de cela, Dieu, en tant que créateur, en tant que souverain, avait tous les droits de juger Adam et Ève sur le champ. Il aurait pu dire, OK, c'est fini. Puis envoyer un éclair, puis les bousiller d'être là, sans qu'ils aient l'occasion de, on va dire, d'argumenter ou de dire, bien. Mais ce qui est évident, c'est que ce n'est pas ça qu'il a fait. Parce que Dieu est miséricordieux et gracieux. Ce que nous lisons, ce qu'on vient de dire dans le passage, c'est que malgré cette offense qu'Adam et Ève ont fait à l'égard de Dieu, c'est qu'il vient dans le jardin. Il vient leur rendre visite. On lit qu'ils entendirent la voix de l'Éternel. Et au verset 9, Dieu les appela. Puis, il n'a pas parlé, puis il n'a pas appelé avec l'idée de, dans un sens, de les mettre au pied du mur, puis de leur donner une raclée. Il vient, il leur parle, il les appelle, leur donnant l'occasion de s'humilier, puis d'admettre, de reconnaître leur péché, se repentir. Il fait preuve de miséricorde et de grâce. La repentance est un sujet qui est un thème qui revient souvent dans les Écritures. Ce n'est pas mentionné dans Genèse 13, mais on dirait que c'est sous-entendu. Mais qu'est-ce que c'est que la repentance? Il s'agit essentiellement d'un changement de pensée. Et si je reviens à... c'est de renoncer à l'info, puis de renouveler par l'info basée sur la parole de Dieu. C'est de mettre de côté nos idées tordues, soit par rapport à Dieu, nous-mêmes, le péché, le moyen du salut ou autre. On pourrait aussi le préciser comme étant reconnaître la sainteté de Dieu et ses exigences pour notre propre sainteté. C'est de confesser que nos fautes sont des péchés ou des offenses contre Dieu. C'est d'avouer notre impuissance, qu'on ne peut pas régler notre problème de péché par nous-mêmes. Ensuite, on pourrait inclure que la repentance est d'abandonner tous nos efforts personnels pour nous rendre acceptables aux yeux de Dieu. Et il pourrait y avoir bien d'autres. Mais c'est dans un sens que Dieu voulait qu'Adam et Ève puissent prendre conscience et se repentir. Adam et Ève, devant ce geste de la part de Dieu, de l'Éternel, on pourrait dire, bien, il aurait dû s'humilier face à cette miséricorde, à cette grâce que Dieu leur démontrait. Et ils auraient dû se repentir et lui faire confiance. C'est facile pour nous de regarder Adam et Ève et leur dire, il aurait dû. Mais quand il vient à notre tour, qu'est-ce qu'on fait? Vous n'êtes pas obligé de répondre, là. Mais vous savez quelle est la réponse à ça. Parce qu'on est des êtres humains. Alors, Dieu leur donne cette occasion de prendre conscience davantage de la réalité de leur péché, de leur offense envers lui. Puis, qu'est-ce qu'ils font? On voit au verset, dans Genèse 3, 10 à 13. Il, en parlant d'Adam, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » C'est-tu parce que Dieu n'était pas au courant? Dieu savait très bien qu'est-ce qu'ils avaient fait. Mais quand même, Dieu prend le temps de poser la question. L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés, qui m'a donné de ce fruit et j'en ai mangé. Bon. Hey, j'en ai sorti. Une chance qu'il y avait la femme là. Puis là, ben, l'Éternel, au verset 13, elle dit, l'Éternel, Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » Une chance qu'il y avait le serpent. On va toujours trouver quelqu'un à blâmer. Hein? Après tout, ben, on est juste une victime, innocente, pas de ma faute. En tout cas. Alors, non seulement ils ont refusé de se repentir, mais ils ont blâmé Dieu parce que Adam dit, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Puis, Ève a dit, c'est le serpent, mais qui a créé le serpent? Bon, ben, à part ça, à faute de qui? Bien, si on continue, bien, à un moment donné, là, une fois que tu arrives à Dieu, puis mettre la faute sur Dieu, tu ne peux pas aller bien, bien plus loin. Tu sais? Alors, comment Dieu réagit-il à la manière que Adam et Ève répondent? Tu sais? Bien, il continue à faire preuve de miséricorde et de grâce en continuant à leur poser des questions, essayer de les amener à prendre conscience de la gravité de la situation, de l'état dans lequel ils se retrouvent, qu'une relation si merveilleuse est brisée, là. Et Dieu désire, cherche à ce que cette relation brisée soit restaurée. Parce qu'il les a créés pour cela. Pour qu'ils aient une relation personnelle avec lui, spéciale, unique. Ni Adam et, ni Ève ne méritaient la miséricorde et la grâce de Dieu. Mais Dieu a quand même choisi, déterminé de leur démontrer, de leur accorder. Dieu désirait toujours à les amener à ce qu'ils se repentent et lui fassent confiance. Alors, Adam et Ève, si on revient à la miséricorde, Adam et Ève n'ont pas subi la conséquence négative qu'ils méritaient. Et du point de vue de la grâce, Adam et Ève ont obtenu quelque chose de positif qu'ils ne méritaient pas. Pour mieux comprendre, saisir ce qu'est la miséricorde et la grâce, je vous propose ceci. Je vous en demande d'utiliser votre imagination pour quelques instants. Alors, disons que vous avez un camion, puis que là, moi, j'ai l'audace de voler votre camion. Comment est-ce que vous pourriez faire preuve de miséricorde envers moi? Bien, une des choses, c'est que vous décidez de ne pas porter plainte. Alors, là, je n'aurais pas subi ce que je mérite, parce que si vous n'auriez pas porté plainte, mais il y aurait des conséquences à ça. Alors, on est encore là. J'ai volé votre camion, mais comment pourriez-vous faire preuve de grâce envers moi? Bien, voici une possibilité. Après que je vous rends votre camion, vous m'offrez un café avant de me raccompagner à la maison. Puis, en plus de ça, vous me proposez de prêter votre camion chaque fois que j'en aurai besoin. j'aurais obtenu ce que je ne méritais pas. Alors, c'est un peu ce que c'est qui s'est produit dans le cas de Dieu à l'égard d'Adam et Ève, mais aussi pour nous en tant que leurs descendants. Pourquoi Dieu leur donne-t-il autant d'occasions de se repentir? Comme je dis, il aurait pu régler le cas en une fraction de seconde. Hein? Mais pourquoi Dieu donne-t-il autant d'occasions à Adam et Ève de se repentir? Et on peut aller plus loin, c'est-à-dire, comment est-ce que Dieu... Pourquoi est-ce que Dieu nous donne à nous autant d'occasions de se repentir? Bien, c'est parce que Dieu est miséricordieux et gracieux. C'est aussi parce que Dieu cherche à rétablir la relation brisée avec ceux qu'il a créés à sa ressemblance. Dieu fait preuve de miséricorde et de grâce en offrant la possibilité de se repentir. Ensuite, le deuxième, c'est que Dieu fait preuve de miséricorde et de grâce en promettant un libérateur qui secourra l'humanité. Et on voit ça dans Genèse 3, 14 et 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux du sauvage. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Alors, le verset 14 s'adresse surtout au serpent, l'animal. Mais le verset 15, eh bien, du fait que Satan s'était servi du serpent, mais là, il s'adresse à Satan. Et là, j'ai mis en couleur de juste montrer la dynamique de ce que c'est qui est communiqué. Le « je », c'est l'Éternel Dieu qui parle. Puis là, le « toi », se rapporte à Satan, la femme. Puis là, il y a la descendance de Satan, puis la descendance de la femme. Puis la descendance de la femme va écraser la tête du serpent, de Satan. Et Satan va lui blesser le talon. Alors, c'est lors de cette période sombre de l'humanité que l'on peut voir une lueur d'espoir. Dieu fait la promesse qu'il fournira lui-même un libérateur qui offrira la possibilité que cette relation brisée puisse être restaurée. Le verset 15 de Genèse 3 est communément appelé proto-évangile, qui signifie le premier évangile. C'est la première fois que Dieu donne, on pourrait dire, des détails sur son plan pour secourir l'humanité de la condamnation, de leur perdition. Et selon la déclaration de Dieu, un jour, une femme donnerait naissance à un enfant mâle qui écraserait Satan. Ainsi, l'humanité serait délivrée de la colère de Dieu, du péché, de Satan, de l'étang de feu. Et naturellement, bien, à partir de ce moment-là, Satan chercherait à intervenir, saboter le plan de Dieu pour cette postérité, cette descendance-là de la femme. Et ce libérateur promis viendrait non pas pour montrer comment avoir une meilleure philosophie de vie ou comment mieux vivre, ni améliorer leur environnement, ni leur condition, ni leur statut social. Non. Ce libérateur viendrait secourir l'humanité et viendrait faire pour les humains ce qu'ils ne pouvaient jamais faire par leurs propres moyens. Il viendrait assurer la délivrance et le salut permettant d'être restauré avec Dieu et de ne pas subir la condamnation du péché. Le libérateur, c'était la provision de Dieu dans sa grâce et dans sa miséricorde. Et comme on voit, c'est que Genèse 3:15, c'est Dieu s'adresse à Satan. Mais il y a aussi un message d'espoir, une lueur d'espoir pour Adam et Ève ainsi que leurs descendants. Qu'est-ce qu'Adam et Ève ont fait pour que Dieu envoie un libérateur? Est-ce qu'ils ont rempli un formulaire? Ça ferait notre affaire si tu nous envoyais quelqu'un pour nous en sortir, nous délivrer. Non. C'était le plan entièrement conçu par Dieu du début à la fin. Qu'est-ce qu'Adam et Ève ont dû faire pour inciter Dieu à démontrer sa miséricorde et sa grâce en envoyant un libérateur? Est-ce qu'ils ont dit, bon, ben c'est vrai, on a fait une gaffe, là, ben tu sais, je veux dire, mais là, à partir d'aujourd'hui, là, on va être un bon garçon puis une bonne fille, puis quand tu l'auras déterminé qu'on a fait assez de bien, bien là, tu enverras un libérateur. Non. Aucunement. Adam et Ève, comme nous, sommes absolument indignes de l'intervention de Dieu. On ne le mérite pas du tout. Une autre question. Pourquoi Dieu offrirait-il une solution à ceux qui l'ont rejeté? Pourquoi il se donnerait la peine de nous offrir une solution quand que, instinctivement, on le rejette, on ne veut rien savoir? Ou presque. Bien, c'est à cause de la nature de Dieu. C'est ce qu'il est. Il démontre sa miséricorde et sa grâce par des actions concrètes. C'est que Dieu désire une relation avec ceux qu'il a créés à son image. La grâce de Dieu est sa saveur non méritée, sans limite à l'égard de ceux qui ne le méritent pas. Elle trouve son origine uniquement en lui, en Dieu lui-même. L'être humain n'y contribue absolument rien et il ne s'attend de notre part rien en retour. On va dire, on ne peut pas marchander avec Dieu. Tu vas me donner ci, puis moi je vais faire ci. Tu sais, on va avoir un échange. On n'a rien à lui offrir en échange. Puis Dieu le sait. Alors, dans les Écritures, on voit que ce libérateur est également appelé Rédempteur, Sauveur, Messie. Et le seul espoir d'Adam et Ève, ainsi que nous, c'est que ce libérateur, eh bien, soit envoyé de Dieu. Afin qu'Adam et Ève et nous, on peut se tourner vers lui par la foi et bénéficier du pardon, du salut, d'une relation restaurée. Alors, dans ce passage, le libérateur promit, il naîtrait d'une femme spécifique, une vierge. C'est pas mentionné là directement, mais c'est que quand on regarde l'ensemble des Écritures, il serait un enfant mâle. Il serait blessé par Satan. Puis, il aurait la victoire sur Satan, libérant ainsi l'humanité. Alors, Dieu fait preuve de miséricorde et de grâce en promettant un libérateur qui secourra l'humanité. Ensuite, le numéro 3, Dieu fait preuve de miséricorde et de grâce en fournissant une solution divine donnant espoir. On a lu, après leur désobéissance, dans Genèse 3, 7, ils ont pris conscience que là, les choses avaient complètement, radicalement changé. Ils se sentent nus, honteux, ils réalisent que la relation avec Dieu est brisée, rompue. Mais on lit dans Genèse, à la fin de Genèse 3, 7, « Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'enfirent des ceintures. » Alors, ils ont pris l'initiative, dans un sens, d'essayer de se rendre présentable. Parce que, ils voulaient encore avoir cette relation avec Dieu, mais ça avait tellement changé, ils étaient maladroits, mal à l'aise, ils ne savaient pas trop quoi faire. Bien, au moins, si on va se couvrir un peu, bien là, peut-être que Dieu s'en rendra pas compte. Bien, la chose est, ça n'avait rien changé, parce que même après s'être revêtus, quand ils ont entendu la voix de l'Éternel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se cacher. Alors, ils reconnaissaient que leur effort, leur vêtement de feuilles de figuier rencontrait pas, faisait pas l'affaire, là. Et c'est pour ça qu'ils sont allés se cacher. Mais on voit que Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce, bien, il ne laisse pas laisser un « OK, voulez-vous cacher? Moi, je ne suis pas à cachette. » Puis là, on voit Dieu sachant que leur effort de se revêtir n'était pas efficace, ni satisfaisant, voyant que même s'ils essayaient d'autres choses, ce serait inutile. Et le désir de Dieu, c'est que la relation qu'il avait avec eux puisse être restaurée. Malgré l'entêtement d'Adam et Ève de vouloir l'éviter, se cacher, l'ignorer. Puis je dirais que on a hérité ça. Mais Dieu, voyant notre condition, il désire que cette relation-là soit restaurée. Et qu'est-ce qu'il fait? On voit dans Genèse 3, 21, l'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, il les leur mit. Dieu est intervenu puis a fourni ce qui était efficace et satisfaisant en tuant du bétail. En se servant de la peau de ces animaux pour revêtir Adam et Ève. Et ce que je trouve intéressant dans ce verset, c'est que qui est-ce que c'est qui a fait tout ça? Dieu. Dieu a tué l'animal. Dieu a pris la peau. Puis même, ça dit que c'est lui qui les a revêtis. Il n'a pas juste dit, tiens, là du linge, habillez-vous. Dieu a tout fait. De A à Z. Parce que c'était sa solution à lui, sa provision à lui. Afin que l'homme ne puisse pas dire, ben, sais-tu, Dieu il a fourni, puis je me suis arrangé tout seul, j'ai fait le dernier quelques pas qui était nécessaire, je me suis habillé, je me suis rendu présentable, acceptable. Non. 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 Et quand on regarde l'ensemble des Écritures, on voit que par ce geste, il y a un principe qui ressort avec qui a plusieurs volets. Et je crois que je vais toutes les mentionner. Mais ce qui ressort, c'est que selon le plan de Dieu, un innocent est appelé à mourir à la place du coupable. Et ça, c'est mentionné à plusieurs reprises, mais excusez-moi. Celui qui m'est venu à l'esprit, c'est Romains 5, 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, afin que nous, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ensuite, un autre, c'est que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et c'est exprimé dans Hébreux 9, 22. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Dieu est le seul qui peut offrir la seule et unique solution pour le pardon des péchés, le moyen par lequel une relation brisée peut être restaurée. Et ça, on le voit dans, encore à travers les Écritures, mais un qui est venu à l'esprit, c'est dans Actes 4, 12, il dit, « Il n'y a de salut en aucun autre. » Il parle de Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Et qu'on aimerait qu'il y en ait un autre. Puis même on s'en fabrique d'autres. Mais il n'y en a pas d'autre. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. L'être humain, dans sa condition de perdition, a besoin d'une solution. Mais c'est une solution qu'il ne peut pas lui-même fournir. Quelle que soit sa sincérité, les exploits qu'il va faire. Mais Dieu a promis un libérateur. Et ce libérateur, c'est Jésus, qui est venu dans ce monde mourir sur la croix et fournir une solution efficace et suffisante pour le pardon des péchés. Lorsqu'une personne se repent et place sa confiance en Jésus, son sacrifice et sa résurrection, ses péchés sont pardonnés et Dieu le revêt de la justice de son Fils et la relation brisée est restaurée. Le point essentiel que Dieu révèle dans sa parole, qui débute ici dans Genèse 3, surtout verset 21, le point essentiel, c'est que nous, on peut essayer tout ce que l'on veut. Dieu nous accorde la liberté de recourir à de multiples moyens pour régler le problème du péché, d'être pardonné, d'avoir une relation, cette relation brisée, restaurée. On peut recourir à la religion, aux bonnes œuvres, une vie pieuse. Mais ça, c'est faire comme Adam et Ève, d'essayer de se revêtir de choses que Dieu ne peut pas accepter. Parce que l'accent est sur ce que moi je fais. Sur, dans un sens, essayer de marchander avec Dieu, de dire, bien, Seigneur, moi, je suis capable d'en faire, là, puis je vais viser 51%. Puis, si je peux me rendre à 51%, Dieu va m'accueillir les bras ouverts. Mais la chose est, c'est que Dieu, lui, s'attend à 100%. Alors, je suis loin du 100%. Alors, pourquoi essayer, par nos propres moyens, de trouver une solution qui est inutile. On va arriver au bout et on va être déçu. Parce que ce sera notre solution et non celle de Dieu. Alors Dieu fait preuve de miséricorde et de grâce en fournissant une solution divine, donnant l'espoir. La miséricorde et la grâce de Dieu sont centrées sur le don de son libérateur, Jésus, celui qui libérera les pécheurs du pouvoir de Satan, du péché, de la colère de Dieu et de l'étang de feu. Alors, ce qu'on vient de voir, c'est Dieu fait preuve de miséricorde et de grâce en offrant la possibilité de se repentir, en promettant un libérateur qui secourra l'humanité, en fournissant une solution divine donnant espoir. Je reviens aux mineurs coincés sous terre. Ils ne pouvaient rien faire pour s'en sortir. Ah, il aurait pu essayer du mieux qu'il peut gratter, enlever du. Hey, mais il y avait 700 mètres à dégager, si on peut dire. Alors, ils ne pouvaient pas s'en sortir par leurs propres moyens. Ils ont dû attendre le secours de l'extérieur. Puis la solution qui leur était offerte, était un genre de. Il y avait, bien, premièrement, il avait creusé un trou qui descendait jusqu'à l'or. Puis là, il y avait une cage. Puis là, chacun avait la possibilité de faire un choix, d'embarquer dans cette cage-là pour être hissé jusqu'à la surface et trouver la sécurité, le bien-être et leur famille. Puis, ils pouvaient en monter juste un à la fois. C'était pas une gang, là. Et quand ça arrivait en bas, chacun avait le choix d'embarquer ou de ne pas embarquer. C'était une décision qui revenait à chacun. Un ne pouvait pas prendre la décision pour l'autre. Chacun pour soi. Et peut-être qu'il s'imaginait, hey, d'un coup, j'embarque là-dedans, là, puis ça coince en plein milieu. Qu'est-ce qui va arriver? Je ne pourrais pas sortir, je vais être là, je vais crever là. Je risque d'embarquer? Je vais laisser passer un avant, puis on va voir ce qui va arriver. En tout cas, je ne sais pas. Je n'étais pas là. Mais je dirais qu'on peut prendre cet exemple, cette illustration-là, puis l'appliquer à nous. Chacun d'entre nous a la possibilité de prendre une décision d'embarquer dans la cage. Puis cette cage-là, pour nous, c'est Jésus-Christ. Est-ce que je vais placer ma confiance en Jésus-Christ pour être monter à la surface, être secouru, d'être délivré, d'avoir mes péchés pardonnés? Ou est-ce que, non, je ne prendrai pas de risque, on ne sait jamais, peut-être ça ne marchera pas. Dans Éphésiens 2, 8, ça dit, « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu a fourni le moyen pour être pardonné, que notre relation brisée avec lui puisse être restaurée. Mais la grâce de Dieu ne s'impose pas. Comme on vient de lire, c'est un don. Puis la seule manière qu'on peut bénéficier d'un don, c'est de l'accepter. Un verset que j'aimerais vous laisser ce matin, puis aussi méditer. Dans Hébreux 12, 15, ça dit, Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. On a chacun la possibilité de faire un choix, de soit s'approprier, bénéficier de la grâce de Dieu ou de s'en priver. Mais il faut réaliser que le choix que nous faisons déterminera si nous serons sauvés ou condamnés. Voilà pourquoi je vous encourage, je vous en supplie, que si vous n'avez pas encore placé votre confiance en Jésus-Christ pour être secouru et avoir cette relation brisée avec Dieu restaurée, bien, n'attendez pas. Hébreux 4:16 nous exhorte, nous encourage, nous invite, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Prions. Père éternel, on veut te remercier, infiniment que tu as eu pitié et compassion de nos premiers parents et que cela s'étend jusqu'à aujourd'hui. Tu as démontré ta grâce et ta miséricorde par l'entremise de ton Fils Jésus-Christ, en pourvoyant le seul et unique moyen par lequel on pouvait être pardonné de nos péchés, que la relation brisée puisse être restaurée, que tu puisses nous aider à tout simplement te faire confiance et accepter la solution que tu proposes, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Merci, par Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, notre Libérateur. Amen.